Chapitre 13. La peur d'Eddie se volatilisa, cédant la place à une froidure étrange, mais bienvenue. Il laissa bruyamment tomber le fauteuil de Susanna sur le béton craquelé et courut lestement le long du câble, faisant fi de la rambarde. Jake était suspendu tête en bas au-dessus de la brèche, ôté se balançant au bout de sa main gauche tel un pendule de fourrure, et la main droite du garçon lâchait prise. Eddie écarta les jambes en ciseaux et se laissa choir en position assise. Dépourvu de toute protection, ses couilles s'écrasèrent douloureusement dans son entrejambe, mais pour l'heure, cet élancement, si abominable fut-il, était le cadet de ses soucis. D'une main, il saisit Jake aux cheveux, et de l'autre une sangle du sac à dos. Il se sentit basculer dans le vide, et l'espace d'un instant de cauchemar, il crut que tous trois allaient passer par-dessus bord comme une guirlande de pâquerettes. Il lâcha les cheveux de Jake et raffermit sa prise sur la sangle du sac à dos, formant des vœux pour que le gamin n'ait pas acheté de la camelote dans un magasin bon marché. De sa main libre, il battit l'air au-dessus de sa tête à la recherche de la rambarde. Au bout d'une éternité au cours de laquelle se poursuivit leur glissade de groupe, il la trouva et l'empoigna.
« Roland !»
beugla-t-il.
« J'aurais peut-être besoin d'un coup de main !»
Mais Roland était déjà à ses côtés, Susanna toujours perchée sur son dos. Quand il se pencha, la jeune femme noua ses bras autour de son cou afin de ne pas tomber la tête la première hors du harnais. Le pistolero passa le bras autour de la poitrine de Jake et hissa le garçon. Quand ses pieds furent de nouveau sur la tige, Jake entoura le corps tremblant d'Oté dans son bras droit. Sa main gauche, feu et glace mêlés, lui faisait souffrir la martyre.
« Lâche-moi, Oté !»
haleta-t-il.
« Tu peux me lâcher à présent. Nous sommes sains et saufs !»
Pendant un horrible moment, il crut que le bafouilleux n'obéirait pas. Puis, lentement, les mâchoires d'Oté se desserrèrent et Jake put libérer sa main. Elle était couverte de sang et cerclée d'un semis de trous sombres.
« Oté !»
dit le bafouilleux d'une petite voix. Eddie, étonné, vit que les étranges yeux de l'animal étaient emplis de larmes. Oté tendit le cou et lécha le visage de Jake de sa langue ensanglantée.
« Ça va !»
dit Jake, pressant sa figure contre la chaude fourrure. Il pleurait, lui aussi, les traits figés en un masque sous l'effet du choc et de la souffrance.
« Te fais pas de mouron, ça va. Tu n'avais pas le choix, et puis ça m'est bien égal. »
Eddie se remit debout avec précaution. Son visage était cendreux et il avait l'impression d'avoir reçu une boule de bowling en plein ventre. Sa main gauche glissa lentement vers son entrejambe pour y évaluer les dommages.
Putain de vasectomie au rabais, dit-il d'une voix rauque.
Tu vas tourner de l'œil, Eddie ? Demanda Roland.
Une rafale frisquette envoya son chapeau dans la figure de Susanna. La jeune femme le rattrapa et le lui enfonça jusqu'aux oreilles, ce qui donna au pistolero l'allure d'un pecno à demi débile.
Non, répondit Eddie. J'aimerais bien, Marc. « Examine Jake, » dit Susanna. « Il pisse le sang. »«
Je vais bien, » déclara l'intéressé qui voulut dissimuler sa main. Roland la prit doucement au vol entre les siennes. Le garçon avait au moins une douzaine de morsures sur le dos de la main, la paume et les doigts. La plupart étaient profondes. Pas moyen de savoir si des os avaient été fracturés ou des tendons sectionnés tant que Jake n'essaierait pas de faire des mouvements de flexion. Or, pas plus le moment que le lieu ne se prêtait à ce genre d'exercice. Roland regarda Oté. L'animal lui rendit son regard, ses yeux expressifs emplis de chagrin et d'effroi. Il ne s'était pas donné la peine de nettoyer le sang de Jake sur ses joues. Pourtant, se lécher eût été pour lui un comportement un peu plus naturel.
« Fiche-lui la paix !»
dit Jake en resserrant son étreinte autour de l'animal.
Ce n'est pas sa faute. Ça a été la mienne de l'oublier. Le vent l'a balayé comme un fétu.
Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. » Roland était certain que le bafouilleux n'avait pas la rage, mais il ne voulait pas laisser O.T. vampiriser Jake plus avant. En ce qui concernait d'autres maladies dont O.T. pouvait être porteur, bon, le cas en déciderait, ainsi qu'il le faisait toujours au final. Roland ôta son foulard et essuya les babines et le museau d'O.T.
Là, brave bête, bon petit pote.
O.T.,
dit le bafouilleux d'une petite voix. Susanna, qui observait la scène par-dessus l'épaule de Roland, eut donné sa tête à couper qu'elle avait perçue de la gratitude dans cette voix-là. Une nouvelle rafale les frappa. Le temps se gâtait à la vitesse grand V.
Eddie, nous devons quitter le pont. Tu peux marcher ?
Non, monsieur, moi il y en a juste pour pouvoir traîner les pieds.
La douleur dans l'aine et au creux de l'estomac, bien que toujours vive, l'était moins que la minute d'avant.
Parfait, en route. Filons aussi vite que possible.
Roland tourna les talons, fit un pas, puis s'arrêta. Un homme, debout à l'extrémité de la brèche, les observait, le visage vide d'expression. Le nouveau venu avait surgi tandis qu'ils étaient tous occupés à secourir Jake et O.T. Il portait une arbalète en travers du dos. Une écharpe jaune vif enturbanait sa tête. Les bouts s'en déployaient comme des bannières dans le vent fraîchissant. Des anneaux dorés, ornés de croix en leur centre, pendaient à ses oreilles. Un bandeau de soie blanche occultait un de ses yeux. Son visage était piqueté de pustules pourpres, dont certaines, ouvertes, suppuraient. Il pouvait avoir 30, 40 ou 60 ans. Il avait une main haut levée au-dessus de sa tête, refermée sur un objet que Roland n'arrivait pas à identifier, sauf que la forme en était trop régulière pour que ce fût d'une pierre. Derrière cette apparition, la cité s'esquissait avec une espèce de clarté surnaturelle dans le jour qui allait s'obscurcissant. Eddie effleura du regard les groupes d'immeubles en briques de la rive opposée. Des magasins depuis belles lurettes mis à sac par des pillards à coup sûr. Ainsi que les canyons pleins d'ombre et les dédales de pierre. Et il comprit soudain à quel point il avait eu tort, à quel point il avait été fou d'espérer trouver de l'aide dans la cité. À présent, il voyait les façades en ruine et les toits brisés. Les nids d'oiseaux échevelés sur les corniches dans les fenêtres béantes et dépourvues de vitres. À présent, il respirait vraiment l'odeur de Lude, et cette odeur n'était pas celle d'épices fabuleuses ni de mets savoureux dans le genre de ceux que sa mère rapportait parfois de chez Zabal. C'était la puanteur d'un matelas qui a pris feu et s'est lentement consumé avant qu'on y jette de l'eau puisée dans les égouts. Tout à coup, il comprit Lude, l'a compris tout à fait. Le pirate grimaçant qui avait surgi tandis qu'ils détournaient leur attention était probablement la version la plus approchante d'un elfe vieux et sage que pouvait produire ce lieu en miettes agonisant. Roland tira son revolver.
« Regaine ce joujou, mon couillon !» dit l'homme à l'écharpe jaune avec un tel accent à couper au couteau qu'ils le comprirent à peine. « Range-le, mon petit cœur !» T'es un fier gaillard, si fait, mais cette fois, t'as perdu.